Il y a beaucoup d'expériences qui sont éminemment humaines, que nous avons donc tous plus ou moins en commun. Certaines sont vertueuses, mais d'autres tiennent plutôt du vice. Par exemple, il est difficile de ne pas éprouver une certaine satisfaction, ne serait-ce qu'une toute petite partie. Quand quelqu'un qui vous a fait une crasse a soudainement de gros ennuis, mais peut-être êtes-vous au-dessus du palier et cette attitude ne vous a jamais effleuré la peau. Eh bien, tant mieux. Abraham aussi était de ces tremplins. À l'annonce que son neveu Lot avait été fait prisonnier parce qu'il se trouvait au mauvais endroit et au mauvais moment, il aurait pu dire « Bien fait pour lui, car après tout, ce petit blanc-bec n'avait pas été très régulier avec son oncle. » Mais le patriarche était de race noble. Il avait oublié cet incident depuis longtemps. Alors, à l'annonce du malheur qui a frappé son neveu, son sang ne fait qu'un tour. N'écoutant que son courage, il déterre l'âge de guerre. Je continue à lire le chapitre 14 de la Genèse. Quand Abraham apprit que son parent avait été emmené captif, il arma 318 hommes bien entraînés, nés dans sa maison, et poursuivit les quatre rois jusqu'à Dan, dans le nord du pays. Il divisa sa troupe et attaqua les ennemis pendant la nuit avec ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Oba, au nord de Damas. Il récupéra tout le butin et ramena aussi Lot son parent, ainsi que ses biens, les femmes et les autres prisonniers. Ce passage est très informatique, car il nous donne une idée de l'importance d'Abraham. En deux temps, trois mouvements, il peut armer 318 hommes, évidemment bien aguerris, est parti en campagne pour en découdre. Le clan du patriarche devait être imposant et posséder des ressources considérables. Se défendre et se battre faisait partie des occupations normales des bergers de cette époque, car c'était littéralement la loi de la jungle qui prévalait. La raison du plus fort est toujours la meilleure. La poursuite est engagée jusqu'au nord de Damas, ce qui n'était pas la porte à côté. On pourrait penser qu'Abraham et ses alliés sont un tantinet casse-cou de s'attaquer à une confédération de quatre rois qui viennent tout juste d'en écraser cinq autres. En tout cas, par sa façon de livrer bataille, il se révèle être un bon stratège. Finalement, il taille en pièces les rois venus de Mésopotamie, récupère tout le butin et surtout les prisonniers qui étaient emmenés pour servir d'esclaves. Une perspective pas très réjouissante ni à cette époque, ni de nos jours, où cela se pratique encore bien dans des coins différents de la planète. Je continue le texte. Lorsqu'Abraham revint, après avoir battu Kadmoutsaoulair et les rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome vint à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée royale. Melchisédek, roi de Salem, qui était prêtre du Dieu Très-Haut, apporta du pain et du vin. Il bénit Abraham en ces termes. Que le Dieu Très-Haut, qui a formé le ciel et la terre, bénisse Abraham, et béni soit le Dieu Très-Haut, qui t'a donné la victoire sur tes ennemis. Et Abraham lui donna le dixième de tous les butins. Au retour de sa victoire, Abraham rencontre un dénommé Melchisédek, roi de Salem, dont le nom veut dire « roi de justice ». Quant à la ville de Salem, elle deviendra Jérusalem. Melchisédek, personnage mystérieux et authentique prêtre de l'Éternel, discerne la raison du succès d'Abraham. C'est le Dieu Très-Haut qui l'a rendu vainqueur sur ses ennemis. En son nom, il bénit le patriarche. Melchisédek n'appartenait pas au groupe ethnique d'Abraham, et pourtant, il était monothéiste, ce qui confirme bien qu'au commencement, tous les hommes avaient adoré le Dieu unique, et que c'est seulement plus tard, en particulier sous le régime du tyran Nimrod, qu'il était tombé dans une idolâtrie grossière. Melchisédek est un personnage énigmatique, surgi de nulle part. qui disparaît des Écritures aussi mystérieusement qu'il était venu. Alors que la Genèse est le livre des familles de la terre et que tous les hommes importants mentionnés sont rattachés à une généalogie, ce n'est pas le cas pour ce roi étrange. On ne sait rien de lui. C'est comme s'il n'avait ni père ni mère. Il est mentionné une autre fois dans l'Ancien Testament en passant comme étant un précurseur du Messie à venir. Par contre, un des livres du Nouveau Testament s'attarde longuement sur lui, le comparant au Christ sous plusieurs aspects, en particulier dans son rôle de grand prêtre. Melchisédek est une figure très importante dans le plan du salut de Dieu. Il est le premier à être appelé prêtre de l'Éternel et reconnu comme tel. Le seul aussi qui ait cumulé l'office royal est le sacerdoce. Cette pratique était courante de la part des roitelets païens qui prenaient pour titre le nom de leur idole favorite. Par contre, quand plus tard le peuple hébreu aura un roi, des prophètes et des prêtres, le cumul des fonctions sera strictement interdit par la loi. Quand Jésus vint sur terre, il exerça tout d'abord comme prophète. Celui qui apportait la parole de Dieu, puis se présenta comme le véritable roi d'Israël. Rejeté, il devint l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Grand prêtre à tout jamais, au bénéfice de ceux qui lui font confiance. Un jour, il deviendra le souverain de toute la terre, et alors, il cumulera la prêtrise et la royauté. Melchisédek offra du pain et du vin à Abraham, un don de nourriture et de boisson ordinaire. Ce geste a une double signification. D'une part, il est un gage d'amitié et d'hospitalité, et d'autre part, c'est un geste sacerdotal prophétique. En effet, le soir où il fut livré, Jésus instituera la Sainte Cène avec du pain et du vin, symbole de son corps brisé et de son sang versé pour la rémission des péchés. En donnant le dixième du butin à Melchisédek, Abraham reconnaît que tous deux servent le même Dieu, Yahvé, nom traduit par « éternel » dans les Bibles de langue française. Je finis le chapitre. Le roi de Sodome dit alors à Abraham, « Rends-moi les personnes et garde le bien pour toi. » Abraham lui répondit, « Je jure à m'élever vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, qui a formé le ciel et la terre, que je ne prendrai rien à ce qui t'appartient, pas même un fil ou une courroie de souliers, pour que tu ne puisses me dire, j'ai enrichi Abraham. Je ne veux rien, si ce n'est ce qu'ont mangé les jeunes gens. De plus, la part des hommes qui m'ont accompagné. Aner, Eshcol et Mamré, eux, ils la prendront. Selon le code d'Amourabi en vigueur au Proche-Orient à cette époque, Abraham avait tout à fait droit au butin et même aux personnes qu'il avait délivrées. Celles-ci étant des biens au même titre que les habits, un terrain ou l'argent. Mais Abraham n'en avait pas besoin et de plus, il ne voulait rien devoir à un roi païen. Cette histoire guerrière est étonnante, car Abraham, le nomade, sans propriété foncière, l'emporte avec ses alliés sur une confédération de 4 rois puissants, puisqu'ils avaient vaincu au moins à 2 reprises les 5 rois du pays de Canaan. Cette victoire préfigure celle que remporteront Moïse puis Josué, son aide-camp, lors de la conquête de la Palestine quelques siècles plus tard. Nous arrivons au chapitre 15 de la Genèse que je commence à lire. Après ces événements, l'Éternel s'adressa à Abraham dans une vision. « Ne crains rien, Abraham, lui dit l'Éternel. Je suis ton bouclier, ta récompense sera grande. » C'est la 4e fois que Dieu se révèle à son serviteur. Il développe la foi de cet homme et le rassure. On ne sait pas ce qui s'est passé pendant la bataille, mais peut-être que la vie du patriarche s'est trouvée en danger. Alors, entendre l'Éternel dire « Je suis ton bouclier » a dû être drôlement réconfortant pour Abraham, car il n'a aucune idée de ce qu'il atteint dans ce périple organisé par Dieu. Je continue. Abraham répondit, Éternel Dieu, que me donneras-tu? Je n'ai pas d'enfant, et c'est Éliézer qui héritera tous mes biens. Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un serviteur attaché à mon service qui sera mon héritier. Alors l'Éternel lui parla en ces termes. Non, cet homme-là ne sera pas ton héritier. C'est celui qui naîtra de toi, qui héritera de toi. Puis Dieu le fit sortir de sa tente et lui dit, contemple le ciel et compte les étoiles, si tu en es capable. Et il ajouta, tes descendants seront aussi nombreux qu'elle. D'anciens documents découverts au Proche-Orient attestent cette coutume pour un maître sans enfant d'adopter l'un de ses serviteurs pour en faire l'héritier et le gardien de sa fortune en attendant la naissance éventuelle d'un enfant. La réponse d'Abraham à Dieu exprime un certain découragement. La seule récompense qui pourrait le réjouir serait d'avoir un fils. Il est franc et direct, disant en substance, « Tu ne m'as pas donné de descendance alors, pour le reste, merci, mais j'ai tout ce qu'il me faut. » Alors l'Éternel renouvelle sa promesse d'une postérité, mais avec davantage de précision, lui disant que son héritier sera son propre fils. La première fois, Dieu lui avait dit que sa descendance serait aussi nombreuse que les grains de poussière de la terre, et maintenant, c'est aux astres célestes qu'il la compare. Or, dans le ciel de rien, on peut voir à l'œil nu plus de 8000 étoiles. De toute façon, ce langage imagé n'avance pas d'un chiffre exact, mais une promesse. Ce que Dieu dit est qu'il ne sera pas possible de compter tous les descendants d'Abraham à cause de leur nombre. Le livre de l'Exode, qui suit celui de la Genèse, prouve que cette promesse s'est accomplie alors que les Israélites étaient en Égypte. Et comme je l'ai déjà mentionné, les Arabes ont eux aussi Abraham pour père fondateur. Ce n'est pas tout, car le Nouveau Testament affirme que tous ceux qui ont foi en Christ sont descendants spirituels d'Abraham. Je lis le passage. Si vous appartenez à Christ, vous êtes la descendance d'Abraham, héritier de la promesse. Donc, que ce soit au niveau physique ou spirituel, Abraham est effectivement le père d'une multitude. Je continue. Abraham fit confiance à l'Éternel, et à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. C'est ici la première mention de l'unique et vitale condition pour plaire à Dieu. Par nature, l'homme n'est pas juste. Alors pour qu'il le devienne, il faut que Dieu lui attribue sa propre justice en réponse à la confiance que je lui témoigne. Ce principe est souvent mentionné dans les Écritures. Dieu veut qu'on le prenne au mot. En ce qui concerne Abraham, la foi et la promesse divine étaient tout ce que l'Éternel attendait de lui. Ce passage de la Genèse est rapporté dans le Nouveau Testament en ces termes. Abraham a eu confiance en Dieu, et Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste. Et pourtant, Abraham va encore faillir à plusieurs reprises. Mais ces accidents de parcours ne vont aucunement modifier le fait que le patriarche a été déclaré juste, parce que la justice qui vient de Dieu s'obtient indépendamment des accomplissements personnels, que ce soit la pratique de rites ou de bonnes œuvres. Je lis un passage du Nouveau Testament. Et si quelqu'un n'accomplit pas d'œuvre, mais place sa confiance en Dieu, qui déclare juste les coupables, Dieu le déclare juste en portant sa foi à son crédit. Le corollaire de ce principe est que quiconque tente de devenir juste par des exercices spirituels quelconques se place sous la malédiction divine. Je lis un passage. Ceux qui comptent sur leur obéissance à la loi tombent sous le coup de la malédiction, car il est écrit, maudit soit l'homme qui n'obéit pas continuellement à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Il est d'ailleurs évident que personne ne sera déclaré juste devant Dieu grâce à son obéissance à la loi, puisque l'Écriture déclare « Le juste vivra par la foi ». Ce texte signifie qu'il n'y a que deux attitudes possibles. Soit on essaie de suivre continuellement la loi de Dieu, et on se place sous une malédiction, parce que c'est un objectif impossible. Soit on s'en remet complètement à Dieu, corps et âme, lui faisant entièrement confiance pour son salut, et alors il nous considère comme si on était sans faute et parfaitement juste. Je continue le texte. Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner ce pays en possession. Seigneur Dieu, répondit Abraham, comment aurais-je la certitude que je le posséderais ? Abraham a l'esprit pratique. Il vit dans la réalité et voudrait avoir la promesse de Dieu par écrit. C'est exactement ce qu'il va obtenir. Dieu va lui dire, « D'accord, on va établir un contrat en bonne et due forme. On va le faire certifier par un notaire comme une promesse de vente en somme. Et Dieu lui a fixé rendez-vous chez l'homme de loi du coin. » Bien sûr, les choses ne se sont pas déroulées tout à fait ainsi, parce qu'elle se faisait différemment en ce temps-là. Mais c'est la même idée. Je continue. Dieu lui dit, « Va chercher une génisse, une chèvre et un bélier ayant chacun 3 ans, une tourterelle et un jeune pigeon. » Abraham alla prendre ses animaux, les coupa tous en 2 parts le milieu, excepté les oiseaux, et pour chacun d'eux disposa les 2 moitiés face à face. Des oiseaux de proie fondirent sur les bêtes mortes, mais Abraham les chassa. Dans le Proche-Orient ancien, une alliance était habituellement scellée par un sacrifice avec les victimes coupées en 2 moitiés. Les contractants passaient entre eux en appelant les divinités de leur faire subir le même sort que ces animaux s'ils rompaient leur engagement. Donc, Dieu suivit la procédure légale en vigueur à cette époque, et qui d'ailleurs resta la même jusqu'à ce qu'Israël soit emmené en captivité à Babylone au 6e siècle avant notre ère. On peut s'imaginer la scène. Abraham vient de finir de tout préparer, et pendant qu'il attend que Dieu se manifeste, des vautours veulent profiter de l'aubaine. Le temps s'écoule lentement. Ses serviteurs le regardent, et des voisins ou des passants viennent voir toute cette charogne et lui demandent « Où est passé l'autre contractant ?» Abraham répond « Quand on voulu, il viendra. » Le jour baisse. Je continue le texte. Au moment où le soleil se couchait, une grande torpeur s'empara d'Abraham et, en même temps, l'angoisse le saisit dans une profonde obscurité. Soudainement, Abraham part au pays des songes, juste au moment où il devait sceller une alliance avec l'Éternel. Il s'endort. Ce profond sommeil dans lequel Dieu le plongea fait penser à celui qui tomba sur Adam juste avant que Dieu ne lui prenne une côte afin de créer Ève. Pourquoi l'Éternel écarte-t-il ainsi son serviteur? Tout simplement parce que, lors de l'établissement de ce contrat, Dieu seul passera entre les victimes, ce qui signifie que l'alliance établie sera unilatérale et inconditionnelle. L'Éternel seul s'engage à tenir sa promesse indépendamment des actions d'Abraham, dont le rôle est seulement de croire en Dieu et d'accepter ce contrat que l'Éternel avait signé en passant au milieu des animaux coupés en 2. Cette alliance entre Dieu et Abraham est prophétique. C'est une image qui nous projette 2000 ans plus tard et qui annonce la mort du Christ sur la croix. Là aussi, sur le mont du Calvaire, Dieu a fait une promesse. Je n'y étais pas et vous non plus. Mais Dieu était présent seul avec lui-même. et il a fait alliance avec toute personne qui le désire. Rien ne m'est demandé sinon d'accepter le contrat qui fut scellé et signé par le sang du Sauveur. Si Dieu avait demandé quoi que ce soit à Abraham, il aurait failli au vu des entreloupettes qu'il va faire. Alors, c'en aurait été fait du contrat, terminé l'alliance, et donc Dieu n'aurait pas eu non plus à honorer sa promesse. Heureusement, donc, que l'Éternel a mis son serviteur sur la touche. Au début du XXe siècle, à New York, une certaine Marie Mallon devint célèbre parce que, sans le savoir, elle était porteuse de la typhoïde, sans pourtant manifester le moindre symptôme. Excellente cuisinière, elle propagea cette maladie partout où elle exerça, et bien des gens moururent. Pareillement, l'homme est tellement corrompu qu'il lui est tout simplement impossible de faire une quelconque bonne action sans la souiller. Pour Dieu, nous sommes des pestiférés qui répandons la corruption à tout ce que nous touchons.